Hello chère Camille, j'espère que tu vas bien. Moi je viens d'arriver à Toulouse après une semaine bien dense à passer à Clermont-Ferrand, qui est une ville que je ne peux que te recommander avec une famille, une grande famille d'artistes très accueillante. Donc j'étais très contente de ce séjour. Mais voilà, c'était un peu dense, donc je commence à être un petit peu fatiguée. Là j'entame donc la dernière semaine de ma résidence à Toulouse. Et je vais donc te décrire voilà, une œuvre que j'ai vue durant la semaine à Clermont-Ferrand. J'ai hésité longtemps entre plusieurs pièces. J'ai décidé de te décrire une œuvre qui change un petit peu du registre de ce que j'ai pu te décrire d'ici là. Peut-être par rapport au fait que tu m'avais dit qu'il y a comme une certaine froideur dans mes descriptions, quelque chose où je me tenais vraiment à ce que j'avais de concret, de visible sur lequel je pouvais me baser. Les deux œuvres que j'ai choisies jusque-là, donc Artusia de Life Design et Mime Sculptures de David Balula, qui fonctionnait sur un principe de l'invisible, soit par un choix de nom de documentation, soit par le choix de mimer des sculptures pour en donner une autre manière de les voir ou de les expérimenter. Donc là, j'ai décidé de te décrire une peinture. C'est une peinture d'un artiste qui s'appelle Hervé Brier. Voilà, donc qui vit et travaille à Clermont-Ferrand, qui a un atelier de la ville là-bas qui s'appelle Les Bains d'Huile. Donc il m'a accueilli dans son atelier, si je ne me trompe pas, le samedi matin. Pourquoi une peinture? Alors, je ne sais pas, peut-être pour revenir à quelque chose de plus tangible, peut-être de sortir un peu de cette idée du performatif, de revenir à quelque chose qui est assez visible et donc peut-être soi-disant plus facilement descriptible. Pourtant, je ne suis pas sûre que ce soit forcément le cas. La peinture que je vais te décrire donc, est une peinture abstraite. Elle était accrochée donc, au mur de l'atelier d'Hervé. Elle doit faire, elle est de format moyen, donc elle doit faire à peu près, je dirais, 120 par 80, quelque chose de, ou peut-être 90 dans ces eaux-là. Donc tu vois, je recommence par te décrire les dimensions du tableau pour, comme je te disais, un peu situer aussi l'échelle par rapport à notre corps. Elle était accrochée à hauteur de yeux à peu près. Donc c'est une toile dont les couleurs sont de tonalité assez claire. Il y a même surtout énormément de blanc sur ce tableau. Donc c'est un tableau qui, alors il y a beaucoup de blanc, il y a aussi une teinte un petit peu jaunâtre, pardon, excuse-moi, et quelque chose qui va aussi un petit peu vers des tons ocre, brun, qui en fait est, en fait ça correspond au bois sur lequel est peint donc, ce tableau. Donc c'est une planche, alors je ne sais plus, en contreplaqué, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc on voit les tranches qui sont laissées brutes. Et donc sur la surface, alors en fait, du coup, donc il y a quelque chose d'assez brumeux. D'assez quelque chose qui serait de l'ordre du flou, ce qui fait peut-être pas beaucoup sens de parler d'un flou pour quelque chose qui n'est pas figuratif. En tout cas, il y a quelque chose d'estompé, où ces teintes jaunâtres, blanches, ocres se mêlent les uns aux autres dans quelque chose qui serait un peu comme vu à travers le brouillard, peut-être. Donc on a une impression, peut-être ça peut faire penser à des peintures de Turner des fois. Moi, j'ai pensé aussi à Rothko pour une question de transparence. En fait, il y a quelque chose d'assez vibrant. Le regard, il n'arrive pas vraiment à se poser à un endroit du tableau. On glisse comme dessus avec le regard. Devant ces teintes aussi assez indéfinissables, il y a des endroits où c'est bien blanc, mais très vite, ça part vers le blanc cassé. donc vers ce jaune ocre, qui a l'air de transparaître en fait en dessous du blanc. Donc en fait, y a une texture aussi qui est assez, assez particulière, quelque chose d'assez lisse et en même temps d'assez doux, un peu velouté. Voilà. Donc je disais, le regard il glisse un peu dessus, on se perd en fait un petit peu sur cette surface de la toile, parce que c'est bien une surface qui est vraiment affirmée comme étant une surface, bien que ce jeu de transparence crée quelque chose d'assez vibrant. Donc c'est pour ça que je parlais un peu de Rothko. En fait, il y a certains tableaux que j'ai pu voir notamment à Bâle la semaine avant d'être à Clermont-Ferrand, qui, voilà, quelque chose de similaire qui s'opérait, de profondeur paradoxale, profondeur de champ paradoxal de cette surface, sur laquelle le regard se balade, se perd. Alors, à un moment donné, je me suis demandé si le tableau ne gagnait pas à être plus grand. Et en même temps, il le rend du coup assez modeste. Il y a quelque chose d'assez humble dans ce tableau. Peut-être aussi par cette couleur blanche, en fait, qui finalement est un recouvrement. Donc j'ai appris, donc c'est Hervé qui m'a un peu dévoilé donc la technicité, on va dire, de comment il a fait cette toile. Après, on s'en doute un petit peu. On voit que le blanc, il est venu se poser par-dessus et qu'il y a quelque chose qui doivent être les couches d'en dessous qui transparaissent à travers cette couche blanche. Et donc, qui en fait a été poncé. Donc en fait, Hervé, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué à même le bois qu'il a... Alors si je ne me trompe pas, je crois qu'il le prépare quand même avec du gesso. Mais j'avoue que je me rappelle pas très bien de ce détail technique-là. Il applique une couche de graisse d'huile de moteur, je crois. Donc quelque chose d'assez sombre qu'il applique sur toute la surface en all over. Et puis après, il laisse plus ou moins sécher, si on peut parler de sécher pour cet agent très gras. Et il vient donc appliquer de l'enduit de lissage blanc par-dessus et qu'il vient ensuite poncer. Donc c'est quelque chose, parce qu'on n'a pas de traces, enfin, en tout cas d'après mon souvenir, on n'a pas de traces de grattage. Il y a cette idée de strates, de couches, de transparence. Et en effet, du coup, c'est le gras en fait de cette première couche qui est responsable pour ces teintes... très jaune. Ça fait un peu penser comme, tu vois, quand tu prends un papier blanc et tu, je sais pas, tu poses un croissant ou quelque chose de gras dessus, il absorbe le gras et devient un petit peu translucide, mais dans quelque chose qui virerait un peu plus vers cette espèce de, ouais, de couleur assez indéfinissable, de presque du vernis peut-être aussi. Alors là, bon, il y a cette idée de gras, et c'est ça qui est assez chouette dans ce tableau. Il y a cette idée de gras, une fois qu'on le sait. Donc là, c'est Hervé qui me l'a dit, mais j'imagine que d'habitude, le public a accès via un cartel à cette information-là, des matériaux qui sont employés. Donc, en fait, on associe peut-être cette idée de gras plutôt à une idée de brillance, d'habitude. Alors que là, on est dans quelque chose de très mat, justement, comme je te disais, un peu duveteux, qui est donc certainement lié à l'action du ponçage, enfin l'enduit qui est quelque chose de mat et qui a été poncé, avec un grain très très fin et qui produit, voilà, ce côté presque poussiéreux et en même temps très lisse et en même temps jouant sur, voilà, sur une... Je ne sais même pas si transparence est le bon mot, serait peut-être plutôt une translucidité, même si la lumière ne peut pas en évidence venir de derrière parce qu'on a une surface très opaque. Et donc il y a un jeu comme ça assez chouette entre qualité de surface et de texture très très différentes. et qui provoque sans doute cet effet que le regard n'arrive pas vraiment à se fixer à un endroit et est constamment entraîné vers d'autres zones du tableau. Voilà. Il y a une idée un peu aussi, ce qu'on s'en dégage, enfin moi c'est une impression que j'ai eue. Comme c'est peint sur du bois, on a un peu ce rapport au retable, enfin pas au retable, mais en tout cas aux icônes, enfin, quelque chose d'assez qui paraît assez daté. Donc il y a une idée de temporalité qui est très importante, qui est donc signifiée par le fait de poncer des couches et des strates, de venir comme ça redécouvrir ce qui était en dessous, et, mais qu'on pourrait soupçonner s'être fait tout seul avec le temps aussi. Pas forcément par une action de l'enlèvement, qu'une action plutôt peut-être qu'on associerait à quelque chose de violent. Ici, c'est pas du tout ça, c'est vraiment très doux. Quelque chose presque d'une idée de lenteur qui s'en dégage. Une idée un peu voilà, de vieux, ce qui est lié aussi au fait que du coup, sur les bords, où je te disais que ça vire un peu plus vers l'ocre, voire le brun, et qu'on voit en fait que c'est à ces endroits-là, il y a le bois. Le support du bois qui réapparaît, donc on a l'idée de l'usure évidemment qui est signifiée par cela. Après, peut-être aussi cette teinte un peu jaunâtre qui peut faire penser à certaines dorures, mais qui aurait un peu vieilli. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez d'immatériel qui se dégage de ce tableau. J'allais presque dire spirituel, mais c'est vraiment beaucoup trop fort comme mot. Mais en tout cas, voilà quelque chose qui indiquerait un ailleurs de cette surface concrète qui est devant nous, parce que finalement, c'est ça, c'est très concret, c'est même pas peint avec des matériaux des beaux-arts, c'est peint avec de l'huile de moteur ou de la graisse de moteur et de l'enduit et du bois assez brut. Donc, une idée un peu d'arte povera aussi qui s'en dégage, une idée de peau peut-être aussi. Une peau qu'on serait venu d'abord poser dessus et après qu'on aurait activée dans sa qualité d'interface. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien ça m'échappe, je sais que j'avais une autre idée. Mais ça m'échappe un peu. Il y a peut-être une idée un peu de, je sais pas, de vanité. Alors peut-être que ça, je te le dis parce que, évidemment, dans mon souvenir, je ne peux pas me défaire de ce qui était posé devant ce tableau, qui en fait sont des socles blancs de petite taille. Je sais pas, en taille ça doit faire, je sais pas, 30 par 30 en plateau et peut-être 50 cm d'eau, qui est traité de la même manière que le tableau, donc un agent gras, puis de l'enduit de lissage qui a été poncé. Donc il y a ce même effet de transparence et de vibrance et de presque de luminosité mate. Je te disais, c'est très beaucoup basé sur des paradoxes. Et sur ces socles, en fait, sont posés des citrons. Donc ça, évidemment, bon, déjà, il y a un jeu chromatique, évidemment, entre le jaune du citron, qui en plus, en vieillissant, devient un peu plus brun et sec. Donc voilà, mais en tout cas, pareil, cette idée un peu de gestes simples, finalement, parce que les citrons sont tout simplement posés. D'Arte Povera, comme je te disais, qui fait ce lien-là, mais du coup, évidemment, aussi cette impression de nature morte, de vanité, et ce que j'ai qualifié tout à l'heure, peut-être d'une impression de vieux, quelque chose qui a vécu le tableau lui-même, en fait. Donc, j'avais envie de te décrire cette peinture parce que. Je l'ai regardé assez longtemps, peut-être pas aussi longtemps que je l'aurais regardé si Hervé n'avait pas été avec moi. On est toujours gêné dans sa contemplation un peu par la présence de quelqu'un d'autre. Ça m'a fait penser, enfin voilà justement, le fait aussi ton retour que tu m'as fait, ça m'a fait penser à cette idée, cette question du de la perception, du choc esthétique que j'ai pu ressentir devant certaines œuvres à Bâle. Ici, c'est quelque chose qui est beaucoup plus doux, mais on est dans quelque chose d'extrêmement sensible et j'avais envie d'essayer de décrire un peu ça. Et moi, ça me rappelle aussi, d'une manière assez différente, mais peut-être des toiles de Cy Twombly aussi. On n'est pas du tout dans le même, dans l'idée du palimpseste un peu agressif, mais et torturé. Mais il y a cette idée du repentir, du recouvrement. Puis en fait, quand même, on vient de nouveau enlever. Donc ce va-et-vient finalement entre surface, stratification, donc volume.